Bonjour, chers auditeurs de Radio Grand Ciel. Nous sommes dans notre émission consacrée à l'iconographie, à l'art et l'histoire. Et nous allons parler aujourd'hui de la polychromie dans les cathédrales gothiques et surtout du décor retrouvé de la chapelle axiale du déambulatoire dans la cathédrale de Chartres. L'année 2009 sera celle des grands travaux dans la cathédrale de Chartres. Le vaste chantier de nettoyage des voûtes du haut chœur est lancé aujourd'hui. D'un montant de 5,7 millions d'euros, cette opération d'envergure va permettre de redonner à la cathédrale son allure médiévale. La restauration des vitraux va se poursuivre également grâce à des dons de généreux donateurs et parmi les associations qui collectent des fonds afin de contribuer à redonner à la cathédrale de Chartres sa splendeur originale. Il faut citer l'association Chartres Sanctuaire du Monde, fondée par Pierre Firmin Didot, également fondateur du Centre international du vitrail. Et aujourd'hui, donc, nous voulons parler plus spécialement de ce nouveau décor que nous redécouvrons dans la chapelle axiale. Et c'est un chantier qui a été lancé par Chartres Sanctuaire du Monde en 2006. Et j'ai invité dans notre studio Michel Boutier. Bonjour Michel.
Bonjour madame.
Qui a contribué fondamentalement à permettre à cette action pilote d'être terminée à son but final. Car c'est lui qui, sur instigation de l'association Chartres Sanctuaire du Monde, a fait une simulation par ordinateur pour montrer l'intérêt que revêt le nettoyage, la rénovation de cette chapelle. Et c'est grâce à cette découverte que les administrations, toutes les personnes qui ont vu cette simulation, ont été convaincues de l'intérêt majeur de cette rénovation et du nettoyage de la chapelle. Donc, cette action a permis donc de récolter la somme nécessaire à ces travaux de rénovation. Et désormais, nous redécouvrons dans la chapelle cette polychromie du Moyen-Âge. Et je suis très heureuse que Michel Boutier va pouvoir nous en parler. Donc, je vous laisse tout de suite la parole, cher Michel. Parlez-nous de cette chapelle qui a retrouvé son décor d'antan.
Ah ben, ça va être un événement majeur. Ça ne va pas marquer l'histoire de la cathédrale, mais ça va être un événement majeur dans l'actualité de ces dernières années, parce qu'on avait complètement oublié ce que pouvait être la cathédrale au Moyen-Âge. On est habitué à un espace sombre, noir, ténébreux, et le XIXe siècle, on a fait des ombres mystiques, un endroit recueilli. Et... Bon, en fait, il faut bien appeler les choses comme elles sont, c'est de la crasse. Les murs sont totalement couverts de crasse. Et c'est justement cette opération qui est en cours maintenant de nettoyer les murs et de retrouver ainsi le visage de la cathédrale médiévale avec son épiderme qui était peint.
Oui, effectivement, quand on relit les auteurs du XIXe siècle, dont Bulteau, dans cette excellente monographie par ailleurs, il parle d'un badigeon beurre frais, il parle d'un badigeon boueux pour lui, d'avoir repeint en plus clair les murs qui étaient sombres et donc mystérieux, puisqu'apparemment on recherchait le mystère dans la cathédrale. Le XIXe siècle n'aimait pas la couleur. Donc notre siècle est mûr pour redécouvrir donc la luminosité dans les cathédrales. Alors, qu'est-ce qu'on a dû enlever donc dans la chapelle? Et comment est-ce qu'on a pu savoir que ça en valait la peine?
Alors, il y a eu plusieurs études de fait qui remontent maintenant à plus de... peut-être une vingtaine d'années. Les premières études ont été faites par un monsieur Michler, qui, sans appareil particulier, a observé, a mis le nez carrément sur les parois de la cathédrale à différents niveaux, et s'est aperçu sous cette couche de poussière, de saleté, justement qu'il y avait des faux joints qui apparaissaient, des couleurs qui apparaissaient. Donc il a fait paraître une publication dans le bulletin monumental, qui a là aussi secoué un petit peu l'univers des historiens, des archéologues à cette époque, mais on savait que tel était le décor des cathédrales en général, dont je reparlerai tout à l'heure. Et puis ensuite, il a fallu attendre longtemps, maintenant ça fait bien une quinzaine d'années, la DRAC, la Direction des Affaires Culturelles, a fait faire une étude beaucoup plus précise, cette fois-ci en amenant des nacelles dans la cathédrale, et on a pratiqué ce qu'on appelle des fenêtres. Alors bien sûr, ce n'est pas des fenêtres qui s'ouvrent. Hein. Une fenêtre en termes de recherche archéologique, c'est-à-dire qu'on enlève une couche pour voir ce qu'il y a dessous. Hein. Donc c'est ce que l'on a fait à plusieurs endroits de la cathédrale. Si vous vous promenez, d'ailleurs, vous verrez, il y a des rectangles un peu bizarres qui sont un peu plus clairs. Donc on enlève la saleté, ensuite on enlève les différentes couches de peinture pour retrouver le témoin d'origine. Et c'est ainsi qu'on s'est aperçu, enfin on a évalué en tout cas, bon, de toute façon ça confirmait l'étude de Michler, et on a évalué du coup qu'il restait 80% de la couche picturale d'origine. C'est peut-être un peu gonflé, mais enfin, c'est pour dire que c'est extrêmement important et c'est une conservation absolument unique dans les bâtiments médiévaux. Unique. Donc finalement, je dirais presque que c'est très bien qu'on n'ait pas nettoyé la cathédrale plus tôt, parce qu'il y a d'autres cathédrales qui sont passées au Karcher et malheureusement, on ne voit plus rien.
Et on peut effectivement être très étonné de voir la splendeur de la clé de voûte dans la chapelle. Alors, décrivez-nous un peu la polychromie pour nos auditeurs qui n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir ce splendide décor.
Alors, oh ben personne n'a eu l'occasion, sauf quelques initiés, parce que vous pensez bien qu'on va faire une grande cérémonie en tirant le rideau et tout. Donc, voilà, en règle générale, tout ce qui est mur, remplissage, les soubassements, le remplissage des voûtes, et ocre jaune. Un ocre jaune relativement clair, hein. Et puis, toute la structure architecturale, c'est-à-dire les colonnettes qui tapissent les murs, les nervures des voûtes, les colonnettes qui entourent les piliers, etc., les chapiteaux, tout ça, c'est en blanc. Donc, vous voyez tout de suite qu'il y a une différence, il y a un contraste entre plusieurs éléments architecturaux. Alors qu'aujourd'hui, tout passe dans le gris et on ne peut pas lire, on ne peut pas apprécier l'architecture.
C'est donc une mise en valeur et surtout la clé de voûte, on voit qu'il y a des traces de,
oui,
de rouge,
alors
de vert.
Les clés de voûte étaient évidemment beaucoup plus riches, il y avait une polychromie plus soignée. Celle que vous verrez dans la chapelle d'Aix, donc la chapelle des apôtres, elle a été entièrement peinte au XIXe siècle, parce qu'effectivement il y a eu plusieurs couches de peinture dans la cathédrale à des époques différentes, et la conservation a décidé de laisser ces peintures apparentes.
La dorure que l'on voit, est-ce que c'est de la feuille d'or ou est-ce que c'est une peinture à l'or ?
Non, il est probable que ce soit ce qu'on appelle une bronzine.
Très bien. Donc la chapelle va sans doute être inaugurée prochainement, au cours du mois d'avril. Donc c'est un événement majeur. Et je pense que tous les auditeurs qui sont près de la cathédrale sont conviés à participer à cet événement qui va nous faire redécouvrir la splendeur de ce décor. Et cela tranchera beaucoup par rapport au reste de la cathédrale qui, pour le moment, est encore très sombre, mais qui va retrouver aussi, grâce à un nettoyage qui est planifié, sa luminosité. Espérons-le, dans un temps assez proche. Une petite pause, et Michel, vous nous avez préparé une surprise pour la pause musicale.
Oui, j'ai trouvé un petit clin d'œil. Je parle d'événements, n'est-ce pas, de choses tout à fait extraordinaires. On va redécouvrir la cathédrale médiévale. On avait complètement oublié à quoi elle pouvait ressembler. Eh bien, figurez-vous qu'on a retrouvé en 2008 une pièce de Jean-Sébastien Bach pour orgue. C'est quand même pas banal. Et le premier enregistrement mondial vient de sortir il y a quelques mois. Donc je vous propose de découvrir cette pièce.
Nous voilà à nouveau dans le studio, chers auditeurs de Radio Grand Ciel, avec Michel Boutier, historien. et qui enseigne aussi à l'école de Chartres pour les arts, fondée par le Centre international du vitrail. Il assure deux cycles de 15 séances sur la cathédrale de Chartres, et puis aussi un autre cycle sur l'art des cathédrales du Moyen-Âge. Et dans ce cadre-là, les auditeurs, et les cours sont ouverts à tous les publics, apprennent d'abord comment on concevait la cathédrale, et on va parler aussi de la symbolique. Donc on entre un peu dans l'époque où ont été construites les cathédrales, ce qui nous permet de mieux les comprendre aujourd'hui. Et nous étions en train de présenter le spectaculaire événement qui va avoir lieu prochainement au mois d'avril, la redécouverte du décor de la chapelle axiale de la cathédrale de Chartres, qui vient d'être restaurée avec l'argent récolté par l'association Chartres Sanctuaire du Monde, qui veut contribuer à redonner à la cathédrale de Chartres, par la restauration des vitraux et maintenant aussi par la rénovation, le nettoyage du mur, de redonner à la cathédrale sa splendeur du Moyen-Âge. Alors, cher Michel Boutier, on va peut-être parler aussi donc ce qu'il y avait avant, ce qu'il fallait enlever pour retrouver ce décor. Vous nous avez parlé des couches de crasse d'abord, mais il paraît qu'on a quand même repeint plusieurs fois au cours des siècles la cathédrale.
Oui, on a repeint plusieurs fois la cathédrale, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il est encore temps. Sachez aussi qu'il y a des travaux qui sont en cours à l'extérieur de la cathédrale, et on a découvert à plusieurs endroits de la cathédrale que celle-ci était également peinte à l'extérieur et jusqu'en haut des façades. C'est assez stupéfiant. Bon, alors, oui, effectivement, il y a eu plusieurs couches de peinture. Il y a donc cette couche primitive dont j'ai parlé. Et à une époque qui n'est pas encore datée, bon, peut-être 13, au 13e, c'était la couche primitive, peut-être 14, 15e, on a refait une deuxième couche. Et cette fois-ci, l'ocre jaune était beaucoup plus soutenu. Bon, mais ça n'a guère changé les choses. Et puis, c'est resté comme cela. Il y a eu également, vers le 15e siècle, des décors qui ont été très, très sophistiqués, alors avec beaucoup de couleurs, sur la partie basse des piliers de la cathédrale, enfin certains piliers de la cathédrale, dont il reste encore, justement, des éléments de décor. Et puis, la cathédrale a été entièrement badigeonnée au lait de chaux au cours du 18e siècle. C'était la mode à cette époque-là. Enfin, au 19e siècle, ça devait être encore à nouveau très sale, et on a repeint certaines parties de la cathédrale, notamment le déambulatoire du chœur. Et là, on l'a peint en une couleur beige avec des faux joints rouges. C'est encore très visible sur les voûtes du déambulatoire. Et puis, on en a profité pour repeindre complètement la chapelle d'Axe, donc la chapelle des apôtres. Donc cette fois-ci, elle a été badigeonnée en blanc, avec des faux joints rouges, et alors toute la partie inférieure, c'est-à-dire entre le sol et les fenêtres, a été pourvue de peintures extrêmement sophistiquées dans le genre de ce que l'on peut voir à la Sainte-Chapelle. Et puis, finalement, tout cela, en ce qui concerne la chapelle des apôtres, tout cela a été finalement gratté, à une époque que l'on ne connaît pas encore, peut-être début 20e siècle, a été entièrement gratté. Donc, lorsqu'on a commencé les travaux, on a retrouvé d'infimes parcelles de tous ces décors. Ça a été, bien sûr, cartographié, comme l'on dit. Et donc, ça a été un terrain idéal pour relancer cette reconstitution qui va servir, évidemment, d'expérience pour la suite de la cathédrale.
Donc, à un moment donné, il faut choisir le décor que l'on veut reconstituer, oui. Pas forcément celui du XIIIe.
C'est-à-dire que là, le problème n'est pas aigu, puisqu'on ne va pas reconstituer le décor du 19e, c'est un fait. Donc on ne va pas non plus rebadigeonner la cathédrale en blanc comme le 18e. Donc il reste les deux couches du 13e, qui de toute façon étaient ocre et blanche, comme je l'ai indiqué.
Et Bulteau, il parle d'un badigeon que la cathédrale aurait reçu en 1772, badigeonné par des Milanais nommés Borani. Donc on aurait fait venir des artistes ou des peintres de très loin pour donner un badigeon. Est-ce que c'est une technique spéciale ?
Non, c'est du lait de chaux. C'est un peu comme du blanc plafond, comme je le dis souvent. C'est pas plus soigné que ça.
Voilà, donc ça devait pas être une réussite, puisqu'il lui donne le curieux nom de badigeon beurre frais.
il assimile peut-être aussi le badigeon qu'il a dû voir, évidemment, du 19e. Alors, qui était certainement beurre frais, oui. avec des faux
dont
joints
le goût de
chocolat.
L'époque, ça devait être suffisamment clair pour satisfaire les chanoines. Alors, la cathédrale de Chartres est la deuxième cathédrale, finalement, qui va retrouver sa polychromie du Moyen-Âge, puisque la cathédrale de Quimper a aussi
la
reçu...
La deuxième, je ne sais pas, on ne va pas faire une liste, mais c'est vrai que la cathédrale de Quimper a été l'une des premières à retrouver sa splendeur d'antan.
Est-ce que je vous pose une colle en vous demandant si on avait trouvé des traces de polychromie dans la cathédrale de Quimper?
Ah oui, bien sûr, c'est pas du tout une fantaisie. Non, non, si vous avez l'occasion d'y aller pendant les vacances, là, surtout, ne loupez pas Quimper, c'est une pure merveille. Et tout a été fait, bien sûr, sur des traces infimes, très souvent.
Une invitation aux auditeurs de redécouvrir la cathédrale de Quimper. Avant de redécouvrir donc la chapelle axiale. Est-ce qu'il y a donc d'autres édifices qui ont eu une couche de polychromie
oui,
et qui revêt un intérêt
majeur? C'était général au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on n'avait absolument pas idée de laisser les matériaux nus. Il n'y a qu'un matériau qui trouvait grâce, c'était le métal. Et pourquoi le métal, alors que ce soit de l'or, de l'argent, du bronze, c'est tout simplement parce que le métal, une fois poli, renvoie la lumière. Tout est une question de lumière. Et donc, le bois, la pierre, n'étaient pas considérés comme des matériaux nobles, et il fallait les revêtir également. Je donnerai le sens tout à l'heure. Et ce qui veut dire que toutes les églises étaient peintes. Et maintenant, on y fait donc très attention. Et à chaque fois qu'on entame des travaux de restauration, notamment sur les portails, eh bien, on trouve toujours des éléments de cette couche polychrome qui revêtait tout l'intérieur des édifices.
Alors, depuis 20 ans, on reconstitue justement avec des lumières colorées la polychromie des statues de la façade de la cathédrale d'Amiens.
Oui, oui, oui.
Donc, cela fait 20 ans. Mais là, on a par contre trouvé beaucoup de traces de polychromie sur les statues, ce qui a permis de reconstituer un décor très détaillé.
Oui.
Et à Chartres aussi, les statues étaient peintes. Est-ce qu'on a
notions de couleurs?
Et
il reste quelques infimes traces. Hélas, trois fois rien sur le portail nord, mais peut-être que la restauration n'avait pas envisagé d'intervenir sur ce sujet. Ça va être fait maintenant au portail sud avec beaucoup plus de soin. Alors je ne sais pas ce que l'on va trouver. Bulto d'ailleurs signalait qu'il voyait encore des traces de polychromie au portail sud. Et mais évidemment, il n'est pas question de faire une reconstitution. Vous pensez bien que ça serait...
À la rigueur, avec des lumières, ce serait une possibilité dans le cadre de...
Même pas, non.
Même pas parce qu'il n'y a pas suffisamment
de
traces
Il y a vraiment très très peu de traces, c'est insignifiant.
Alors on va peut-être parler après la deuxième pause musicale de la signification
parce qu'on peut se poser la question
couleurs,
quand même.
Surtout si la cathédrale était également peinte à l'extérieur.
Oui,
c'est
oui.
Une nouveauté que nous découvrons. Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, nous continuons notre entretien fort intéressant avec Michel Boutier qui nous parlait de la restauration, rénovation de la chapelle axiale de la cathédrale de Chartres. Nous étions passés par la polychromie des cathédrales gothiques et je voulais rappeler, avant de poursuivre notre débat sur la symbolique justement de la couleur dans les édifices gothiques, que Chartres Sanctuaire du Monde est une association qui récolte des fonds de généraux donateurs qui permettront à l'avenir d'assurer la restauration des vitraux, c'est très important. Nous avons un édifice qui comporte un patrimoine en vitrail extraordinaire, unique au monde. Donc 16 cloîtres Notre-Dame à Chartres, Chartres Sanctuaire du Monde, association qui reçoit et va redistribuer vos dons. Vous pouvez recevoir un reçu fiscal qui vous sera adressé dès la réception de votre don. Et votre don, donc, aussi pourra contribuer à redonner à la cathédrale son éclat d'autrefois. Michel Boutier, vous enseignez à l'école de Chartres pour les Arts, organisée par le Centre international de vitrail, et vous êtes intervenu récemment, au début du mois de mars, dans des journées d'études, également organisées par le Centre international de vitrail, qui parlait des matériaux de la construction médiévale, des techniques et des symboliques. Et dans ce cadre-là, vous avez eu l'occasion de faire découvrir à toutes les personnes qui sont intéressées par la participation à ces journées d'études les matériaux de construction et la signification, la symbolique. Pourquoi ? Le pourquoi des choses, le pourquoi des éléments de l'architecture et pour aujourd'hui le sujet est la couleur. Pourquoi la couleur ?
Alors, je me base bien entendu sur des textes. Je ne vais pas imaginer ce qu'auraient pu penser les gens du Moyen-Âge. Ça serait bien prétentieux et dangereux d'ailleurs. Non, il y a suffisamment de textes de théologiens, de commentateurs médiévaux pour savoir ce qu'ils ont denté par cette couche de peinture dont ils revêtaient les édifices. Il faut savoir que pour eux, d'abord, la couleur, ça va de pair avec la lumière et la vie. Une personne vivante, c'est une personne qui a les joues roses pour eux. C'est une personne qui vit, donc on voit cette vie qui circule sous l'épiderme de la peau. Et puis, ça va de pair avec la lumière. L'éclat de la lumière révèle la couleur des objets. Et inversement, si les objets ne sont pas colorés, eh bien, la lumière n'éclate pas, ne brille pas. Donc c'est vraiment deux éléments qui marchent ensemble. Alors pour comprendre pourquoi on peignait les cathédrales, c'est vraiment une idée qui nous est complètement étrangère aujourd'hui, il faut se souvenir de la symbolique générale d'une église médiévale. Il faut bien savoir que, bien sûr, c'est une image de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le temple parfait qui est dans le monde d'en haut, mais c'est aussi, au même titre d'ailleurs, une image de l'homme devenu parfait, qui retrouve sa beauté au moment où il a été créé, sa beauté d'avant le péché originel. Et donc, ce long parcours, c'est une reconstruction de l'être humain, donc sa vie, c'est une reconstruction, comme le chantier d'une cathédrale. Et lorsqu'il parvient donc à cette étape ultime, où il va ressembler au Christ, eh bien, tout son être est paré de toutes les vertus. Et précisément, la dernière tâche de la construction, c'est la peinture. Je vous donne quelques petits extraits. Isidore de Séville, par exemple, qui sert de référence à beaucoup d'autres commentaires, eh bien, lorsqu'il parle de l'architecture, pour lui, il y avait plusieurs étapes très distinctes. Et la dernière, c'est précisément tout ce qui concerne l'ornementation, dont la peinture. Et voilà ce qu'il dit. Ces parties étant terminées, c'est-à-dire toutes les parties de la construction, etc., de maçonnerie, etc., toutes ces parties étant terminées, vient alors ce qui concerne la grâce des édifices. La grâce est tout ce qui est surajouté au bâtiment pour l'orner et pour le décorer, comme les plafonds à panneaux rehaussés d'or et les revêtements de marbre d'un grand prix et des peintures en couleur. Et alors le lien qui est fait ensuite donc avec le chrétien qui se construit et qui s'édifie avec toutes les vertus, eh bien c'est donné par plusieurs textes. Je vous donne par exemple un texte de Grégoire le Grand. Il dit ceci: nous établissons d'abord les fonds. Vous allez voir, il fait une métaphore de la construction humaine et de la construction d'édifices. Nous établissons d'abord les fondements du sens littéral. Ensuite, par le sens typique, je passe. Nous faisons de l'architecture de notre âme une citadelle de foi. Enfin, par l'agrément du sens moral, nous revêtons en quelque sorte l'édifice d'une couche de peinture. Donc vous voyez, c'est le sens moral, donc tout ce qui concerne justement les vertus. Et Hugues de Saint-Victor, un des plus grands théologiens du XIIe siècle, lui également, il emboîte le pas et il dit « Quand tu t'apprêtes à construire, pose d'abord comme fondation l'histoire. Ensuite, au moyen de la signification typique, dresse pour en faire une citadelle de foi l'atelier de ton esprit. » Et pour finir, à travers la grâce de la morale, peint l'édifice comme si tu étalais la plus belle couleur. Bien sûr, il parle de la construction de l'homme, hein, quand tu t'apprêtes à construire. Il parle vraiment aux chrétiens, et il parle de l'atelier de son esprit. Donc la construction, la reconstruction de l'homme dans sa perfection première est comparée au chantier d'une cathédrale. Et donc la cathédrale reflète tout cela, et encore une fois, il est hors de question de s'arrêter au mur nu. La reconstruction de l'homme n'est pas finie.
Et de toute façon, tout est symbolique dans le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge tout ne va pas s'arrêter ni aux matériaux, ni au sens littéraire.
Non, ça serait décevant.
Voilà, et vous le rappelez bien dans vos cours, qu'il y a jusqu'à 4 sens de lecture, parfois, dans un vitrail, ou même dans l'architecture, ce que nous découvrons grâce à vous. Alors, pourquoi peindre à l'extérieur ? Là, par contre, nous sommes ébahis de penser à l'effort phénoménal que devait représenter aussi ces applications de couches à l'extérieur. Donc comment est-ce qu'on procédait ? Une fois que les échafaudages étaient en place, on en profitait en même temps ?
Ah oui, il ne faut pas imaginer qu'on remettait les échafaudages en place. Encore que.
Donc il y avait le maçon au-dessus et le peintre en dessous.
Oui, encore que, parce que là, justement, on a bien sûr prélevé les échantillons qui sont en cours d'analyse, mais il semble qu'on peut au moins établir deux couches à l'extérieur. Donc cette couche primitive, qui est exactement la même qu'à l'intérieur.
Donc vous avez de l'ocre jaune.
C'est de l'ocre jaune et puis des éléments soulignés en blanc, etc., avec des faux joints blancs. Et puis on s'aperçoit aussi que par-dessus, il y a eu une peinture blanche, un badigeon blanc qui a été remis dessus. Donc là, nous sommes dans de pures hypothèses encore, mais il est bien évident qu'au bout de plusieurs décennies, bon, la pollution n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. L'eau était propre, l'eau de pluie était propre, donc ça a dû se conserver assez longtemps. Mais au bout d'un certain temps, malgré tout, ça a dû se délaver et avoir un aspect plutôt médiocre. Et donc on a sans doute éprouvé le besoin de repasser une couche, mais cette fois-ci de peinture blanche partout.
Et de toute façon, après les guerres de religion, l'argent devait sans doute manquer pour refaire des badigeons.
Peut-être.
Mais espérons que sous la couche de crasse suffisamment épaisse sur le portail sud, qu'il y a suffisamment de restes de polychromie
pas rêver, je pense pas.
Peut-être dans les yeux. Parfois, on a l'impression que les statues nous regardent encore.
Oui, tout à fait.
Et le regard porté avait aussi une importance particulière.
Les statues, c'est pareil. Si elles étaient peintes pour imiter vraiment les personnages, c'est également parce que lorsqu'on les regarde, on doit être interpellé par leur regard. Elles sont vivantes. Et donc, on n'est pas devant des statues dont l'œil est blanc et ne vous regarde pas. Non, au contraire, tout est la chair est rose, la pupille est peinte. Et
tout est lourd de signification.
La statue vous regarde, elle est habitée par l'esprit du personnage qu'elle représente.
Nous voilà arrivés à la fin de notre très intéressante émission, grâce à Michel Boutier. Merci beaucoup, chers auditeurs. Si vous voulez contribuer à maintenir ou à faire redécouvrir dans la cathédrale la beauté et la splendeur du passé, adressez-vous à Chartres Sanctuaire du Monde qui va y contribuer grâce à vos dons et surtout redécouvrez avec nous la toute nouvelle rénovation de la chapelle axiale de la cathédrale qui a retrouvé sa splendeur. Au revoir chers auditeurs, merci à la technique. Merci Michel Boutier.
Au revoir.